17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans Grand Témoin. Aujourd'hui, le grand témoin, Karim Amlal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là. Vous êtes ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée. Et c'est, on vous connaît à la radio, puisque c'est pas la première fois que vous venez. Vous avez beaucoup travaillé sur le racisme, antiracisme, puisque vous avez reçu pour votre livre « Discriminez-moi ». Et vous êtes enseignant à Sciences Po, et vous avez, sur les questions de discrimination, vous avez été auteur d'un rapport sur la haine en ligne que vous avez remis au Premier ministre. Vous êtes proche d'Emmanuel Macron et vous avez participé à sa campagne. Je crois que vous avez même été candidat dans le 10e arrondissement de Paris. Donc vraiment bienvenue ici et là, sur la Méditerranée, vous avez du pain sur la planche. On va peut-être tout de suite commencer par l'actualité. Aujourd'hui, on voit ce petit enfant qui a été sauvé en Méditerranée. On voit à Melilla des milliers de personnes. Là, peut-être que les chaînes d'infos le découvrent, ou la France le découvre, mais ça se passe depuis des mois et des mois, depuis des années. Ce sont des migrants qui viennent du Sud. Et puis, ils arrivent là. Ils se jettent sur les barbelés, et puis ils arrivent en mer, et on les voit sur des bouées de fortune, des bouteilles en plastique. Alors il y en a quelques centaines qui sont sauvées, plusieurs milliers qui meurent, donc on a vu ça. Et d'ailleurs, il y a un très beau dessin dans la presse satirique ce matin. C'est un énorme paquebot, et... il est énorme dans un port, et puis il y a une petite embarcation embrouillée par terre avec des gens qui sont entassés, et sur le paquebot on dit tout inclus. Donc ce sont des gens aisés qui prennent une croisière, et puis sur ce petit radeau c'est tous exclus là. Et puis on a maintenant sur la côte méditerranéenne l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on a des centaines et des centaines de personnes, des haragas. On a des passeurs, et on prédit pour 2021-2022 des vagues d'immigration jamais atteintes, encore plus importantes. Alors, cette Méditerranée que vous défendez, on peut peut-être poser une question. Où va la Méditerranée? Est-ce que c'est ça, la Méditerranée?
La Méditerranée, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et ça, il faut s'en occuper. Ça, c'est ce que vous décrivez très justement et très tragiquement. Ce sont des morts, des milliers de morts qui sont des gens comme vous et moi qui poussés ou chassés par la misère, eh bien décident, comme on dit, vous avez employé le terme de haraga, décident de se brûler en quelque sorte, et de tout brûler, et puis de partir, de se jeter à la mer. Avec une seule idée en tête, advienne que pourra. En réalité, il s'abandonne aux mains de la fortune. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il y a des raisons évidemment économiques, des raisons sociales, des raisons politiques parfois, parce qu'on sait qu'un certain nombre de ces personnes viennent de pays, en Afrique subsaharienne notamment, où les tensions politiques, les difficultés politiques sont telles qu'un certain nombre de personnes sont chassées de ces pays-là. Il y a aussi d'autres raisons que l'on n'a pas encore assez en tête et qui vont produire une augmentation de ce phénomène. C'est le changement climatique, principalement. Vous avez évoqué 2021-2022, mais les analystes prévoient des vagues de départ, d'émigration, en nous plaçant du côté des pays de départ, beaucoup plus massives encore dans la décennie, les décennies qui viennent. Et cette fois, évidemment qu'il y aura des raisons économiques, mais il y aura aussi et surtout des raisons climatiques. Donc, le constat, nous le faisons tous de part et d'autre. Et la Méditerranée, effectivement, est d'une certaine manière une mer où viennent se noyer un certain nombre de gens qui sont chassés par la misère et demain par le changement climatique. À partir de là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est évidemment d'abord prendre notre part en termes d'accueil d'un certain nombre de ces personnes, mais le fait est que l'Union européenne, l'Europe, la France a fortiori, ne peuvent pas accueillir absolument tous ceux qui viennent tout le temps, toujours. Il faut en prendre notre part, comme la décision très très sage d'Angela Merkel en 2015, par exemple, avec des vagues de réfugiés d'autres régions du monde, moins d'Afrique subsaharienne, un peu quand même. Et puis, il faut travailler à faire en sorte que les raisons pour lesquelles des gens quittent leur pays n'existent plus ou existent moins. Alors, il y a quelques années, nombreuses années, certains appelaient ça le co-développement, par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais ce qui est sûr, et c'est une responsabilité de l'Europe et de la France en particulier, c'est qu'il faut contribuer, respect mutuel, mais il faut contribuer à aider l'ensemble de ces pays d'émigration, ce qu'on appelle aussi les pays sources, pour que tout simplement ils développent des capacités, des facultés qu'ils ont en leur sein et que parfois ils ne développent pas parce qu'il leur manque de l'expertise technique, des financements, etc. On est aujourd'hui un moment où, par exemple, a lieu le sommet le sommet Afrique-France sur le financement des économies africaines. Et je crois que c'est par ce biais-là, par des mécanismes de ce type, qu'on va pouvoir régler pas tout le problème, mais une partie du problème. Parce que, tout simplement, ça commence par de l'économie, ça commence par des financements, par le développement de capacités.
Par la réduction des dettes, comme ça s'est
fait. Exactement, la réduction des dettes. Et en fait, il faut tout simplement que nous aidions, et notre responsabilité est là, nous aidions l'ensemble de ces pays à se développer pour que les raisons qui conduisent des gens à quitter leur pays, eh bien, diminuent, ou en tout cas, soient moins importantes qu'aujourd'hui.
Karim Hamlal, je crois qu'il faut, on va essayer de ne pas être dans la langue de bois. Les Africains, comme les gens d'Afrique du Nord, il n'y a pas un atavisme particulier qui serait pas capable de monter des sociétés, des entreprises, etc. Il y a une chose qui est claire, depuis les indépendances africaines ou nord-africaines, les pouvoirs en place sont pas des modèles de démocratie, ce sont même des modèles néocolonialistes vis-à-vis de leur propre population. À l'époque de François Mitterrand, il y avait cette idée de donner des aides ou de favoriser un peu le développement et qui, en proportion avec leur capacité de développement démocratique. Comment des pays qui ont des régimes autoritaires, qui cadenassent la façon de créer des entreprises, des PME, des PMI, etc., comment ces pays-là, lorsqu'ils n'ont pas les leviers alternatifs de contre-pouvoir qui sont consubstantiels d'un développement économique, on pourra donner des plans Marshall à temps larigot, s'il n'y a pas cette respiration démocratique, s'il n'y a pas cette capacité de développer l'économie, comment voulez-vous qu'il se développe? Est-ce que là, il n'y a pas aujourd'hui un élément de blocage et qu'on n'arrive pas à dépasser?
Bah, ce qu'on observe, c'est que en Afrique subsaharienne, mais en fait sur tout le continent africain, il y a bien sûr des leviers de blocage, il y a des États parfois dont les capacités ne sont pas à la hauteur des défis à relever. Il y a tout ce que vous dites.
Et puis la corruption au milieu.
La corruption au milieu.
Qui est phénoménale. Parce que
des entraves
beaucoup
de toutes
sortes. D'aides atterrissent dans des comptes offshore.
De toutes sortes, bien sûr.
Ou dans des, dans d'autres.
Il y a des entraves de toutes sortes qui sont politiques, qui sont liées à la corruption, qui sont économiques, etc. Ce qui est sûr, et c'est là-dessus qu'il faut bâtir, construire, c'est qu'il y a une société civile, des acteurs de la société civile, des citoyens qui ont une énergie absolument considérable, un potentiel d'innovation considérable aussi, et qui font des tas de choses. C'est-à-dire que ce qui fait tenir l'Afrique aujourd'hui et ce qui l'a fait avancer, ce qui l'a fait bouger, on le voit chaque jour, c'est l'effervescence créative et le potentiel d'innovation.
Et souvent malgré le système répressif à l'intérieur de ces pays-là.
Évidemment.
Ils se battent de façon incroyable.
Et une capacité à se glisser dans les interstices de liberté, d'émancipation qui est absolument fantastique. Et le potentiel de l'Afrique, qui est déjà d'ailleurs en partie dans certains pays réalisé, il est là en réalité. Il est dans cette capacité créatrice, dans cette capacité à se prendre en main, dans ce qu'on pourrait appeler ailleurs l'empowerment aussi, c'est-à-dire malgré les difficultés, comment est-ce qu'on s'organise pour s'en sortir ? Pour s'en sortir, pour créer des choses, pour innover, pour créer des entreprises, pour créer de la valeur économique notamment. Et ça, c'est fantastique et c'est un potentiel qui nous oblige, nous Européens, nous Français, mais qui en réalité oblige le monde. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que toutes les parties du monde et toutes les puissances du monde viennent en Afrique et se donnent rendez-vous en quelque sorte en Afrique. Et l'Afrique est devenue l'un des grands carrefours du monde. On parlait des Chinois, des Américains. Et en parlant des Américains, je crois que c'est le président Clinton qui avait à l'époque, par rapport à l'Afrique, une formule qui résume beaucoup de choses, qui avait dit « trade not aid ». Et c'est en lien un peu avec ce que vous dites, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on ne raisonne plus de cette manière qui consiste à jeter ou à balancer comme ça sur la tête des gens des millions, des milliards en leur disant débrouillez-vous, parce que ça ne marche pas tout simplement. L'aide elle seule ne suffit pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est construire avec ces pays, construire avec ceux qui dans ces pays sont motivés pour avancer. Et il y en a beaucoup. Alors, parfois, des responsables politiques ne prennent pas en compte cette responsabilité-là et ne veulent pas, pour plein de raisons, avancer. Mais il y a des acteurs économiques, il y a des chefs d'entreprise, il y a des corporations, il y a des acteurs des sociétés civiles. Et c'est avec eux qu'il faut engager ce processus et justement, plutôt que de les aider en leur filant de l'argent tout simplement sans but particulier, il faut les aider à construire des infrastructures. Construire des infrastructures au sens large, hein, c'est construire des systèmes éducatifs, construire des programmes, construire des lois, des réglementations, des systèmes de régulation. Alors c'est ce que nous faisons, nous en France, à travers notre politique d'aide au développement qui repose sur ces principes-là. C'est ce que fait l'Union européenne massivement, notamment dans les pays de la rive nord de l'Afrique.
Justement, on va en parler dans un instant. Ce que vous dites est très intéressant, mais on a en face quand même une économie informelle, notamment on a eu l'esclavage, on a eu les traites négrières, etc. Et il y a un business qui se fait autour des réfugiés, autour de tous ces circuits de passeurs. J'en veux pour preuve, on l'a reçu ici à la radio, hein, des gens qui passent par Taman Rasset. Vous avez des camps où vous avez un business considérable qui ensuite achemine les gens vers le nord. Et puis la corruption en face. Donc c'est quand même société informelle corruption. Ce sont des chancres difficile à vaincre, et on va avoir l'occasion dans un instant de parler des moyens et des stratégies que vous mettez en œuvre.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Karim Amlad, qui est en charge de la Méditerranée, avec nous. La Méditerranée qui est au cœur de l'actualité, puisque on connaît l'Union pour la Méditerranée, comment elle a été créée, etc., et les conditions, comment elle a avorté, son immobilisme, et on sait que son immobilisme est essentiellement dû au conflit israélo-palestinien, ça c'est la Méditerranée au sens large. Après on reviendra dans le 5+5 dont vous avez en charge plus particulièrement, donc les cinq pays au nord et 5 pays au sud, mais la Méditerranée au sens large, orientale et occidentale, c'est aussi ça, c'est le conflit israélo-palestinien. Et là, à la lumière des événements qui se passent à Ceuta, l'enclave espagnole du Maroc, c'est aussi une espèce de règlement de compte, parce que l'Espagne a ouvert une délégation du Sahara occidental chez elle, et le Maroc se venge entre guillemets en laissant un peu les migrants aller à la mer, un petit peu comme Erdogan pendant la guerre avec Daesh, etc., faisait le chantage avec les réfugiés, etc. Donc c'est atroce, ce genre de marchandage. Dans cette Méditerranée, le conflit israélo-palestinien qui n'en finit plus, et puis ça un peu ça. Donc cette Méditerranée, on a aussi le sentiment, et bon, on parle d'Erdogan à l'instant, et Erdogan qui dit, moi la Libye ça m'intéresse, et il veut pas, il a dit, moi la Libye je veux être présent, comme on sait que la Libye fait partie des 5+5 aussi, donc c'est un peu compliqué. Le conflit israélo-palestinien d'abord, vous êtes ambassadeur, vous êtes un homme politique, vous êtes proche du président de la République, Ce matin, Biden, le président américain, a opposé une fin de non-recevoir à la proposition française, en concertation avec la Jordanie et l'Égypte, d'appeler à un cessez-le-feu entre les Palestiniens et Israël. Comment vous accueillez ça?
Alors d'abord,
La France n'a plus son rôle à jouer dans la région.
Si, je crois qu'elle a son rôle à jouer et qu'elle le joue avec d'autres évidemment. Mais je voudrais répondre sur la première partie de votre question où vous énumérez un certain nombre de foyers de tension et il y en a d'autres que vous avez oubliés, la Syrie par exemple, oui. qui est encore un autre terrain de guerre en réalité en Méditerranée. Et alors, le premier réflexe qu'ont les gens quand je me présente et que je leur dis voilà, je m'occupe de la Méditerranée au ministère des Affaires étrangères. Ils me disent, bah, t'as du boulot, dis donc. Et effectivement, on en a eu là un aperçu. Mais la Méditerranée, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que des gens qui se noient en mer, ça n'est pas que la guerre en Syrie, la crise en Libye, Erdogan, la rivalité entre l'Espagne et le Maroc, entre l'Algérie et l'Espagne, etc., etc. La Méditerranée, c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses, je pense qu'on en parlera, qui nous unissent, des sujets qui nous rassemblent, une culture extraordinaire qui a créé depuis des centaines d'années, des milliers d'années, autant de liens entre nous. Donc, la Méditerranée, c'est ce qui nous divise, mais c'est aussi ce qui nous réunit. Et sur le plan politique, on a un peu ces deux options, c'est-à-dire voir ce qui nous divise et créer encore plus de divisions. On sait que c'est une stratégie politique pour certains, et ça l'a été pour l'Empire britannique, par exemple. Donc, diviser pour mieux régner, en quelque sorte, et susciter des divisions et encore plus de divisions, ou bien essayer de nous réunir, de bâtir ensemble et de trouver des sujets d'intérêt commun. C'est ce qui a conduit à la création de l'Union pour la Méditerranée. Et c'est ce qui a conduit à la création du 5+5 et de plein d'autres enceintes. On essaye de se mettre autour d'une table et de dire, bon bah, on met de côté ce qui nous divise et on regarde ce qui nous rassemble et sur quoi on peut bâtir pour régler des problèmes communs. Bon. Parmi les problèmes très anciens que nous avons à régler, parce que je crois que c'est une responsabilité collective, il y a le problème d'Israël et de la Palestine, le conflit israélo-palestinien. Bon, nous, en France, et depuis très longtemps, vous connaissez notre position, que nous n'avons jamais changé, modifié.
Un petit peu, on est dans l'actualité, on a l'impression quand même que la réaction du président de la République est un peu timorée, parce que la France... François Mitterrand a reçu Yasser Arafat. Yasser Arafat a reconnu la caducité de la charte de l'OLP. Il a reconnu Israël. L'Assemblée nationale française a reconnu l'État de Palestine sous la mandature de François Hollande. On s'attend quand même de la part du président Macron qui de façon emblématique a fait beaucoup d'avancées sur la mémoire, sur le rapprochement notamment avec l'Afrique du Nord, etc. C'est quelque chose qu'il a pris à bras le corps et vraiment il a le soutien de beaucoup de gens. On est en attente de sa part de quelque chose d'important et on a l'impression qu'on est là, c'est le feu, on fait des condoléances à droite à gauche, mais on a le sentiment que c'est voilà, on est quand même dans un deux poids deux mesures.
Oui, parce que d'abord le cessez-le-feu, tout le monde demande le cessez-le-feu et nous le demandons parce que c'est la priorité
c'est
du
préalable.
Moment
c'est
et c'est la condition de tout le reste. Donc on est aujourd'hui dans une situation où c'est la première chose à faire. Sur notre position, il faut la rappeler, notre position et d'autres n'ont pas la même position. Notre position, c'est deux États qui vivent en paix et en sécurité côte à côte.
Avec Jérusalem Est comme capitale,
avec
l'État palestinien
comme capitale.
On revient dans le multilatéralisme, alors que Donald Trump ne s'est pas privé de faire les petits cadeaux à Benjamin Netanyahu.
Nous n'avons jamais dévié de cette position. C'est la position du président de la République. J'observe aussi d'ailleurs que c'est la position du président Biden qui lui aussi milite pour expliquer qu'il était favorable à une solution à deux États. Donc après, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est réaliste, à chacun de juger et d'apprécier. Mais nous, avec nos amis, avec nos alliés et dans un cadre collectif, dans un cadre multilatéral. Vous avez parlé de la résolution que la France a portée avec un certain nombre de ses partenaires.
L'Égypte, la Jordanie. L'Égypte, mais notamment. On a le sentiment que la France n'arrive plus à faire porter sa voix. Elle ramène un petit peu des alliés comme l'Égypte, la Jordanie, mais d'autres pays, et que malgré ça, les États-Unis leur disent écoutez les cocos, c'est nous les patrons. Votre résolution, on n'en veut pas.
Bah, je crois que la France joue son
presque humiliant.
Je crois que la France joue son rôle. Elle a porté cette résolution. Elle est active et le président est actif sur le plan diplomatique avec Israël, et Israël est notre allié et notre ami. Il faut pas l'oublier. De même que les Palestiniens. Donc le président Macron parle avec tout le monde. Vous savez, on va pas faire porter au président de la République la responsabilité de trouver à lui seul une solution à un problème et un conflit qui dure depuis des décennies.
Et peut-être quand même là, c'est peut-être le moment de, parce qu'on parle de démocratie. Tout le monde dit qu'Israël est une démocratie. Je pense que c'est une démocratie inachevée puisqu'elle n'a pas de constitution et qu'elle est régie par les lois fondamentales, y compris de la Torah. Donc c'est un État théocratique quelque part. On n'est pas dans la démocratie comme on la connaît en Europe. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le Fatah, l'organisme de gouvernement palestinien, est un système démocratique. Et que si d'ailleurs les pays arabes ils en veulent pas. Il y a des ministres d'origine juive, il y a des ministres d'origine chrétienne. Le Fatah, l'organisme de gestion du peuple palestinien, est un organe démocratique. Et ça, je trouve qu'on oublie trop souvent de le dire, parce que on parle des roquettes du Hamas, etc. Mais je veux dire que on pourrait peut-être même ça en avant en disant quand même les Palestiniens obéissent à des critères du système démocratique universel, européen et universel, et on pourrait avancer là-dessus quand même. Mais on dit toujours, chacun est le terroriste de l'autre.
Oui, à chacun d'apprécier ce qu'il en est, et puis aux Palestiniens d'abord de trouver les solutions politiques à leurs problèmes. Et évidemment, on est aussi là et avec tous les autres pour les aider. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on a un peu perdu de vue, c'est que les opinions, les positions de part et d'autre, du reste, y compris en France en quelque sorte, se sont très largement polarisé ces dernières années. Et on est aujourd'hui dans une situation de tension extrême, et en réalité de polarisation extrême, parce que pendant un certain nombre d'années, par le passé, eh bien, on n'a peut-être pas suffisamment prêté attention se passait.
Et un des effets néfastes de cette polarisation, c'est de donner à cette guerre, à ce conflit, un caractère religieux qui ne l'est pas au départ, puisque c'est un caractère politique de colonisation, c'est d'apartheid, et que c'est quand même une question politique. Et là, le glissement s'est fait vers musulmans, juifs, etc. Et c'est dramatique.
Oui, c'est dramatique, bien sûr. C'est malheureusement quelque chose d'ancien. Et c'est vrai que la solution que nous préconisons, la position que nous avons de deux États qui vivent côte à côte, chacun en sécurité, c'est important, s'éloigne de plus en plus. Mais il faut pas baisser les bras, et le multilatéralisme, le cadre collectif, les systèmes d'alliance, ça sert aussi à ça, à essayer de trouver, d'apporter des solutions. Alors, vous avez raison sur le fait que la France toute seule, mais je crois que c'est pas du tout le but, ne va pas trouver une solution et ne va pas sûrement pas l'imposer à qui que ce soit. Elle serait de toute façon dans l'incapacité de le faire. Donc c'est à plusieurs qu'il faut le faire. Et c'est à plusieurs aussi, et ça c'est un point important, au sein de l'Union européenne. L'Union européenne,
qui est le principal bailleur de l'État palestinien.
Exactement. Et l'Union européenne, vous avez vu à quel point c'était difficile de trouver une position qui fasse l'unanimité. J'observe que la Hongrie s'est démarquée un petit peu, ou singularisée.
Oui, on connaît la Hongrie. La Hongrie, elle est suiviste de l'Europe, avec la Pologne, avec le Portugal, etc. On les a vus dans la guerre en Irak. Oui. Il y avait toute cette frange européenne qui était avec George Bush pour intervenir, et puis l'autre autour de Jacques Chirac. qui était contre la guerre.
On connaît la position de la Hongrie. Bien sûr. Donc, c'est dans ce cadre collectif qu'il faut essayer de pousser des solutions. Mais encore une fois, la France ne peut pas le faire toute seule, et c'est pas le but. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup à attendre dans une évolution à venir, sans doute, de la position du président américain. Parce que le président américain n'est pas tout seul. Il a des alliés à l'intérieur de son propre camp, du camp démocrate. Il y a un certain nombre d'alliés qui le poussent à faire évoluer sa position. Et je crois que c'est un test, hein, pour un premier test en termes de multilatéralisme pour le président américain. Et ces derniers jours, il y a quand même une pression de plus en plus forte qui s'exerce sur lui pour que les États-Unis reviennent dans le jeu et effectivement permettent de faire adopter ou de pousser une solution politique.
Quand même là, dans un instant, on va revenir à cet agenda positif de la Méditerranée que vous défendez avec toute votre énergie. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Karim Amlal, qui est notre grand témoin d'aujourd'hui, grand ambassadeur de la Méditerranée, délégué interministériel à la Méditerranée. Karim Amlal, vous êtes, je l'ai rappelé en début d'émission, issu de la société civile. La société civile, ça vous parle. La Méditerranée, ça vous parle, parce que vous êtes aussi d'origine algérienne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, dans, en tout cas dans votre démarche et dans votre façon d'appréhender un peu toutes les questions. Sur l'Algérie, il y a eu beaucoup de chantiers, beaucoup d'actualités, notamment ce rapport sur la mémoire et sur c'est peut-être cette façon peut-être de rapprocher la France et l'Algérie. Vous êtes ambassadeur à la Méditerranée. La Méditerranée, en tout cas 5+5, ne peut pas se faire sans l'Algérie. L'Algérie est moteur dans... en fait, l'axe essentiel, c'est la France et l'Algérie. Et c'est autour de tout ça que peut se constituer la Méditerranée occidentale. Sur cette capacité du couple franco-algérien, à la fois sur la mémoire et sur la Méditerranée, vous en êtes où ?
D'abord, il faut rappeler quelle est la place de l'Algérie pour nous et pour la France. Elle est essentielle. Elle est essentielle, et la relation entre la France et l'Algérie, en Méditerranée, dans la région, est structurante. C'est vraiment l'un des partenaires les plus importants pour la France. Et un pays avec lequel, d'ailleurs, la coopération est considérable, ce qu'on a toujours tendance un peu à oublier, parce qu'on se focalise sur, parfois, des points de crispation, mais c'est de l'écume, en réalité. Le socle de la relation franco-algérienne, c'est des centaines, des milliers d'accords de coopération qui couvrent l'ensemble des domaines, de la pêche jusqu'à la culture, au patrimoine, etc. Donc ça, c'est la réalité de la relation franco-algérienne. Et l'autre réalité, évidemment, ce qui complexifie la relation, mais ce qui l'enrichit aussi, bah, c'est qu'en France, on le sait bien, et j'en suis, et vous aussi, deux échantillons, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, c'est pas ont une origine algérienne, ont un lien avec l'Algérie, ont un lien bien très sûr, fort, familial, sûr. Symbolique, culturel, les coopérants, les anciens combattants et leurs enfants, bref. Et donc, et j'en viens à la question de la mémoire, il y a des représentations et des mémoires de l'Algérie qui sont nombreuses et qui ne sont pas uniformes, qui ne sont pas d'un bloc. Et ça, c'est un travail qui est important parce que il nous faut, et c'est l'un des objectifs du travail remarquable de Benjamin Stora à travers son rapport et sa mission, il nous faut articuler ces mémoires et essayer de faire en sorte que, plutôt que d'être isolées ou séparées les unes des autres, et parfois en conflit même, eh bien, elles soient articulées, elles dialoguent les unes avec les autres. Et il y a quatre grands groupes qui sont liés à l'Algérie en France. Il y a évidemment tous ceux qui sont de nationalité algérienne ou issus de l'immigration algérienne. Il y a les anciens combattants, il y a le monde, les mondes rapatriés, et puis il y a les harkis, en gros. Et il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais ces quatre grands groupes-là doivent se parler les uns avec les autres. Donc il faut créer des espaces de rencontre, il faut créer des espaces de mémoire, des espaces de discussion, et une représentation, sinon une représentation commune, du moins une modalité de conversation. Voilà. Et c'est important, il y a du travail, encore une fois. Et puis il y a le lien avec l'Algérie. Et là aussi, on sait que la relation avec l'Algérie, aussi bonne soit-elle et aussi puissante soit-elle, elle est parfois encombrée par, alors selon la formule un peu rituelle, ce passé qui ne passe pas et qu'il faut justement essayer de dépasser. C'est l'autre enjeu essentiel du rapport de Benjamin Stora que d'essayer de changer de méthode et de trouver des moyens, non pas de revenir et de ressasser le passé, mais des moyens d'avancer et d'avancer ensemble avec l'Algérie, avec les Algériens, dans un respect mutuel, en regardant quels sont les points, sur les trucs très concrets sur lesquels il peut y avoir dialogue et avancée. La question des essais nucléaires, la question de la reconnaissance d'un certain nombre d'assassinats de personnes importantes dans l'histoire de l'Algérie. Ça a été fait avec Ali Boumendjel, ça a été fait avec Maurice Audin. Le président de la République, Emmanuel Macron, est un grand ami de l'Algérie. Et il aime l'Algérie. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il n'a pas de passé avec l'Algérie. Mais il considère que c'est un pays essentiel pour la France, avec lequel on doit pouvoir faire des choses, et que pour pouvoir avancer sereinement et dans l'apaisement, il faut justement régler un certain nombre de questions qui sont d'ordre mémoriel. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Le rapport de Benjamin Stora trace un chemin, fait des propositions. Le président de la République en a retenu un certain nombre et il y en aura d'autres qui viendront, justement pour nous permettre à deux, la France et l'Algérie, d'avancer ensemble.
Oui, puis il y a aussi toute cette... ces historiens algériens aussi qui se sont mêlés un peu tout ça et qui aussi demandent au gouvernement, enfin au pouvoir algérien de d'ouvrir les archives, et donc on voit bien que ça fait tache d'huile cette histoire. Et à un moment donné, en fait, si j'ai bien compris Karim Amlal, vous voulez opposer à la verticalité du passé l'horizontalité de l'avenir.
Oui, d'une certaine manière, c'est une...
La guerre était verticale, c'était un affrontement, le bien, le mal, le bon, etc. Et l'avenir, c'est toutes ces ramifications, tous ces accouchements, toutes ces prolongements tentaculaires un peu partout, qui vont faire des connexions, voilà.
Oui, et puis c'est une manière pragmatique d'avancer que nous proposons et que le président de la République propose, c'est-à-dire regarder d'abord l'histoire en face, regarder les points sur lesquels il peut y avoir des avancées, entretenir un dialogue, évidemment, avec nos amis et partenaires algériens, et avec le président Tebboune, mais avec les historiens, et d'historien à historien. C'est pour ça que nous sommes évidemment très attentifs au travail qui est fait par les historiens aussi en Algérie. Donc c'est vraiment à deux qu'il faut essayer d'avancer.
Dans ces prolongements, je reprends une de vos formules. Vous parlez souvent d'agenda positif pour la Méditerranée. Et dans ces prolongements et dans cet agenda positif, vous dites vouloir impliquer les diasporas. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que on peut rien faire sans les diasporas, et en particulier en France où les diasporas sont nombreuses et où elles sont aujourd'hui en capacité d'agir et de faire des choses avec leur pays d'origine, et évidemment en France. Pourquoi ? Parce que les diasporas, et plutôt les membres des diasporas, ce sont des médiateurs. Ce sont de formidables médiateurs, intercesseurs, et ce sont des personnes. Moi, j'en fais partie. On en fait partie. Ce sont des personnes qui connaissent très bien deux pays, deux cultures, parfois plus, et qui sont agiles, qui sont en capacité d'agir ici, là-bas, de faire passer des messages, de jouer un rôle positif. Et donc ces diasporas-là, alors la diaspora ou les diasporas issues des immigrations maghrébines en particulier, mais pas seulement, puisqu'on parle de la Méditerranée, il y a aussi des diasporas italiennes, espagnoles, portugaises, notamment, il faut les associer à ce que nous souhaitons faire et à ce fameux agenda positif. Qu'est-ce que c'est que l'agenda positif ? C'est regarder quels sont les sujets d'intérêt commun, les sujets qui nous réunissent. Par-delà nos divergences, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a plein de points de divergence. On a deux possibilités. Soit on se focalise sur les divergences et on n'avance pas et on recule. Soit on met de côté nos divergences, dès lors qu'elles sont pas fondamentales, sur un certain nombre de sujets, et on regarde comment on peut avancer. C'est quoi les points d'intérêt commun ou les sujets d'intérêt commun ? C'est l'environnement, par exemple. Parler au tout début du changement climatique et de ses conséquences. S'il y a bien un sujet...
On rappelle que les 10 villes les plus chaudes du monde, de la planète, planète sont en Méditerranée.
C'est, la Méditerranée est, comme on dit, un hotspot du changement climatique. C'est un des lieux les plus concernés par le changement climatique. Et franchement, peu de personnes en ont aujourd'hui conscience. Alors, on le voit bien, l'été, etc., le réchauffement, la canicule, on voit ces choses-là. Mais on ne mesure pas encore les conséquences terrible de ce changement climatique. Donc il y a l'environnement, mais il y en a plein d'autres. Il y a la formation, il y a le digital, il y a l'économie, il y a les questions de culture, de patrimoine. Sur tous ces sujets-là, c'est l'agenda positif. Il y a moyen d'avancer ensemble. Et parmi les acteurs qui peuvent avoir un rôle à jouer, il y a effectivement les diasporas.
Ces diasporas que vous voulez aussi faire, c'est souvent, ça revient souvent dans votre bouche, vous voulez aussi faire résonner la Méditerranée sur nos territoires. C'est-à-dire que, en fait, vous avez à la fois impliqué les diasporas, mais faire résonner les territoires de France par rapport à cette Méditerranée sur certains grands projets, sur le réseau des villes, etc.
Oui, parce que la Méditerranée, c'est un très bel objet de notre action extérieure. On a parlé de l'UPM, la scène régionale, des choses qui sont moins connues, comme le 5 plus 5, qui sont d'éléments de diplomatie, d'objets diplomatiques. Mais enfin, la Méditerranée, c'est d'abord un sujet de politique intérieure. De par la place qu'occupent les diasporas, et notamment les diasporas méditerranéennes, au sens large, dans notre pays. La Méditerranée, c'est une identité positive et inclusive. C'est ce qui nous rassemble, en réalité, la Méditerranée, c'est ce qui nous rassemble par-delà toutes nos divergences, par-delà nos divergences d'appartenance, nos divergences culturelles, nos différences confessionnelles, notamment. Ben, on est tous méditerranéens. On a tous en commun un patrimoine, des représentations, des valeurs, des modes de vie, des façons de parler.
Et en fait, vous voulez faire de cette Méditerranée, ça revient aussi beaucoup dans votre bouche, un moment festif et populaire.
Oui, c'est un moment festif et populaire.
Ce sont vos propres expressions.
Tout à fait.
Trouver les moyens d'entraîner les gens, oui. Les jeunes en particulier dans cette
bien
idée.
Sûr.
Et là, récemment, tout récemment, les 42 États ont voté l'idée d'une journée internationale de la Méditerranée. Donc, qu'on a aussi émis
28 novembre.
Au Conseil économique et social français. Et donc, c'est cette journée, j'imagine, que vous voulez en faire un grand moment de fête aussi.
Oui, bien sûr. Et c'est pas fêter pour fêter, c'est parce que la fête nous rassemble, la fête nous réunit. Et la fête est ce moment un peu où nos passions communes, nos identités communes se cristallisent. Et c'est important, la fête de la musique. Par exemple, quand Jack Lang l'a créé, ça a été un moment où on se retrouve dans la rue, c'est-à-dire dans l'espace commun, dans l'espace collectif. Et la Méditerranée, c'est vraiment très important. C'est une identité commune qui nous englobe tous, tous français et tous méditerranéens, évidemment.
Quand même là, une heure, c'est vraiment trop court pour parler de tout ça. On a abordé quand même pas mal de sujets. On aura l'occasion de se retrouver sur cette Méditerranée qui vous passionne, qui nous passionne. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt.
Merci
sur
Grand-FM.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.